C'est ma vie, je l'ai choisie, un projet de recherche qui est finalisé et nous avons de nombreux invités qui nous rejoignent pour en parler. 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Je vais vous dire un mot de nos invités pendant qu'ils s'installent. Marie-Claire Alvic, responsable d'un service universitaire d'orthopédagogie clinique, professeure chercheuse à l'université de Mons. Audrey Lamburan, je commence par les femmes, voilà, doctorante en sciences cognitives. Elle est entourée d'Edouard Clément, qui est un fervent utilisateur, qui a testé l'application dont nous allons parler, et de Jean-Paul Champeau, de la Fédération Trisomie 21 France. Et puis Bernard Nkawa, à côté de Jean-Claude, qui est professeur en sciences cognitives à l'Université de Bordeaux. Merci à tous les cinq de nous avoir rejoints. Et puis, eh bien, je vous ai fait asseoir dos la vidéo qu'on va avoir dans un instant. Enfin, vous la connaissez. Peut-être que c'est juste Jean-Claude qui voudra se déplacer. Et je vous laisse découvrir « C'est ma vie, je la choisis » avant d'en parler.
Le projet « C'est ma vie, je la choisis » a pour objectif d'aider les personnes qui le souhaitent à élaborer un projet de vie. Un projet de vie consiste à imaginer ce que l'on aurait envie de faire plus tard, dans sa vie familiale, professionnelle, ses loisirs, etc. Imaginer un projet de vie est une chose extrêmement difficile pour nous tous, et particulièrement pour les personnes avec déficience intellectuelle. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, aucun outil numérique ne permettait d'aider à élaborer un projet de vie. C'est pourquoi nous avons développé un outil papier, un outil numérique, et nous proposons une formation à l'utilisation de ces outils. Ces outils ont été conçus dans un souci permanent d'adaptation et d'accessibilité aux futurs utilisateurs, à travers plus de 100 entretiens réalisés auprès de personnes avec trisomie 21, de familles et de professionnels, et en utilisant une méthodologie de design participatif. Les outils permettent de réfléchir à ses souhaits, ses désirs, ses envies pour l'avenir en fonction de ses valeurs, et de le faire de façon ludique, attractive et conviviale. L'objectif est de favoriser l'autodétermination et l'inclusion sociale en permettant à l'utilisateur de s'exercer à faire des choix.
Voilà, là encore, c'est une vidéo assez courte, mais qui montre déjà un certain nombre d'éléments. Vous avez tous déjà, je pense, une idée de ce dont on va parler. En tout cas, à titre personnel, ça fait plaisir d'avoir suivi un peu l'évolution du projet et de voir aujourd'hui le rendu, le résultat final. C'est vraiment intéressant et c'est bien la preuve qu'on est dans le concret, que la recherche appliquée est dans le présent. En tout cas, on ne va pas attendre 20 ans avant d'avoir des résultats. Ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est Jean-Paul qui va commencer. On s'est calé avant. C'est Jean-Paul qui va nous dire un mot, justement, finalement, de comment un peu est né ce projet, comment la Fédération Trisomie 21 France est allée à travailler déjà sur ce sujet depuis déjà de nombreuses années, bien avant le projet de recherche dont nous parlons ce soir.
La Fédération Trisomie, bonjour d'abord. La Fédération Trisomie 21 France a travaillé sur l'autodétermination, j'allais dire, depuis qu'on a découvert Marie-Claire Elouek et l'université, les travaux de l'Université de Mons et à travers ça les travaux qui seront faits par Yves de la Chapelle au Canada. Et on a travaillé depuis 2000. En l'an 2000, Marie-Claire est venue nous voir à Saint-Étienne sur un colloque que l'on a organisé à l'occasion de l'an 2000 d'ailleurs. Et nous a présenté la méthode GT. Je suis, je serai. Et à partir de ça, on a travaillé avec l'Université de Mons, on a organisé des formations, on a organisé des formations de formateurs qui maintenant interviennent pour notre centre de formation. Et avec la loi de 2005 et l'avènement du projet de vie, la concrétisation du projet de vie dans la loi, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne un outil de compensation aux personnes avec trisomie 21 pour qu'elles puissent rédiger un projet de vie. Et on a travaillé avec Mons, un premier projet qui a été soutenu par la CNSA, de premier livret d'un outil papier. Et dans un deuxième temps, alors sans doute on avait manqué d'ambition, mais on l'avait déjà pensé, on s'est dit que c'était intéressant de mettre à disposition un outil de ce type-là pour des non-lecteurs. Et naturellement, on a pensé donc à l'outil numérique. Et quand je dis à des non-lecteurs, à mettre à disposition un des non-lecteurs et à des non-lecteurs, cet outil devait être pour nous adapté à des personnes avec trisomie 21. Et on a donc recontacté Mons, bien sûr, mais on a eu aussi l'opportunité, les travaux sur les outils numériques émergés aussi sur l'INRIA et sur l'Université de Bordeaux, et on a pris contact et on a mis les universités en coopération pour déposer ce projet à la FIRA. Voilà la genèse du projet.
Marie-Claire, alors un mot, puisque c'est parti aussi...
C'est ça.
Le projet numérique est parti aussi un peu de ces travaux papier préexistants, de ces guides méthodologiques que vous aviez développés donc pendant plus de 15 ans, avec notamment Trisomie 21 France. Vous aviez déjà pensé, hein, ce que nous disait Jean-Paul l'instant, qu'un jour l'évolution, ce serait d'amener du numérique derrière.
Oui, on peut dire que c'est vrai qu'au niveau de l'autodétermination, c'est quelque chose qui est travaillé, qui a été travaillé il y a déjà bien longtemps. Je pense que c'est aussi important de recontextualiser et de se dire, mais tiens, pourquoi à un moment donné on s'est intéressé à l'autodétermination ? C'est vraiment dans la suite logique de toute une série d'avancées et de transformations qui ont mis en évidence, mais disons que le fait de normaliser les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment ça qui a été le point de départ, de se dire, mais quels sont les changements en termes de qualité de vie, en termes de qualité des services à mettre en place pour les personnes en situation de handicap. Et à partir de là, se poser la question, mais... quelle est leur opinion, quel est leur avis, puisque c'est eux qui sont au centre de ces transformations, en sont-ils réellement des bénéficiaires? Et les premières idées, c'était celle-là. C'était vraiment d'aller recueillir la parole, les impressions des personnes. Et le titre, oui, c'est au point de départ, c'est ma vie, je la choisis, c'est ma vie après tout, c'est justement favoriser l'expression par la personne elle-même de ce qui l'intéresse, de ses projets, de ses envies. C'est vraiment tout ce qui est lié à l'identité de la personne, et ce, bien au-delà du handicap. C'est ce qui est le point de départ.
Et alors, de ce point de départ, on en est arrivé à une application numérique. Alors, c'est vrai qu'on a tout de suite envie de voir avec vous pourquoi, qu'est-ce qu'a apporté cet outil numérique, pourquoi on a eu vraiment besoin et envie de développer l'application numérique. Je crois que c'est une première, l'utilisation d'une interface numérique pour choisir sa vie. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est important l'autodétermination, c'est important qu'on demande aux premiers concernés leur avis, mais comment on peut s'assurer, via une application, qu'on est bien là-dedans, que c'est bien ce choix-là qui est pris en compte et que c'est bien l'avis des personnes, dans notre cas, porteuses de trisomie 21, qui est pris en compte. Oui, Bernard, par exemple.
Bon.
Qui veut ?
Je ne sais pas si... Ah, c'est bon. Donc, bonjour. Alors, effectivement, le contexte un petit peu posé. L'association Trisomie 21, l'université de Mons avait fait à peu près déjà tout le travail lorsqu'ils se sont retournés vers l'université de Bordeaux pour mettre en musique numérique tout ce travail. Alors pourquoi du numérique? On avait déjà pas mal de réponses en fait. On sait aujourd'hui que les outils numériques sont efficaces. On connaît maintenant un certain nombre de choses sur l'intérêt de ces outils. Alors, on connaît l'intérêt en termes de convivialité, en termes de facilité d'interaction, en termes d'adaptation à l'utilisateur, en termes de les aspects ludiques, ce qu'on appelle les serious games. Aujourd'hui, beaucoup d'études dans beaucoup de domaines avec beaucoup de populations ont montré des effets extrêmement favorables de l'utilisation d'outils numériques sur la qualité de vie, sur la satisfaction au sens large. Donc voilà, le premier point, c'était ce qu'on savait déjà sur cette histoire-là. Et le deuxième point qui est peut-être aussi important, c'est que Alors, il y a deux autres points encore. Un deuxième point aussi important, c'est que l'outil, effectivement, est relativement novateur parce qu'il avait pour ambition d'essayer de permettre à des gens de réfléchir à leur avenir ou à ce qu'ils avaient envie de faire plus tard. Alors, pourquoi c'est novateur ? Parce qu'effectivement, dans le champ du numérique, on est plus souvent dans l'aide à la tâche, même si des fois c'est extrêmement important, on vient de le voir tout à l'heure, que dans l'aide à la capacité à choisir ce qu'on a envie de faire. Et c'est pas tout à fait la même chose, parce que le concept d'autodétermination sur lequel reposent toutes ces études est un concept qui peut développer en France, mais qui, à mon sens, a beaucoup d'avenir encore en France, même s'il est plus développé ailleurs, parce qu'il dit cette chose qui est extrêmement simple et extrêmement efficace, c'est que plus on fait des choix dans la vie, et plus on s'en trouve extrêmement amélioré dans plein d'aspects de la vie quotidienne. Et c'est pas anodin du tout. Les études sont extrêmement significatives dans ce domaine-là et peuvent montrer que sur des personnes âgées, par exemple, en situation dans des institutions, le fait que l'institution favorise la capacité des personnes à faire des choix, choisir tout simplement, quand je dis choix, c'est les choix de la vie quotidienne, hein, choisir son menu, choisir le film qu'il a envie de regarder, ces choix-là, si l'on compare à des situations où ces choix-là ne sont pas proposés, les répercussions en termes de santé, en termes de longévité, sont pour certaines études extrêmement importantes. Donc c'est pas rien, voilà, c'est juste pas rien, enfin, c'est important. Donc, la deuxième chose qui était importante dans l'outil numérique, c'est que aider des personnes à faire des choix, c'était aussi les aider à faire des choix personnels. Et l'outil numérique avait pour ambition de favoriser ça, parce que les choix personnels, c'est pas facile, parce que, évidemment, on est entouré, heureusement, et les personnes, le public visé est un public souvent entouré de la mère et du père dans cette situation-là. Et du coup, évidemment, les choix sont sous influence, même si des influences bienveillantes, hein, de la famille, de l'entourage. Et notre ambition, c'était un peu d'essayer avec un outil numérique de s'affranchir de ces influences-là et de permettre à la personne le plus possible de faire ses choix et d'essayer de réaliser ses propres choix. Voilà. J'ai déjà dit beaucoup de choses là.
Tout à fait. Et on a la chance d'avoir Edouard avec nous aussi, qui a été un fervent utilisateur pendant un bon mois, hein, je crois, de l'application. Donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Bernard, qui nous dit que finalement, faire un choix, c'est essentiel. Est-ce que vous, Bernard, Edouard, vous avez eu l'impression, en utilisant cette application, de faire des choix réellement, de choisir et de décider pour vous?
Alors, bonjour à tous. Je fais des numériques aussi depuis longtemps. On peut faire plein de choses dans les numériques. Par exemple, plein de choses, soit par exemple les rendez-vous, soit Chris, soit Olivier Bernard. On peut tout faire. Sur les numériques. Et ça, c'est... Ça, il faut aussi ouvert à tout le monde. Voilà.
Et c'est important, justement, que votre avis ait été écouté, qu'on vous ait associé à cette application.
Ben, les numériques, par exemple. Je veux dire un petit mot pour les numériques. Pour les enfants... Et pour les ados, si on met en place des numériques, par exemple, plein de choses, par exemple, pour soit les rendez-vous, soit des activités, ou soit des sociales, ou des porte-parole, qu'aujourd'hui, c'est important. Qu'aujourd'hui, on sait que nous, handicap. Mais je comprends, ou d'autres. C'est sûr, au ce moment aujourd'hui, les handicaps, pour plein de handicaps, tous, je comprends, il y a des jeunes, c'est difficile, mais il y a beaucoup de soutien derrière.
Et est-ce que c'était facile pour vous d'utiliser l'application? Est-ce que c'était...
Moi, non. parce que le site, c'est agréable. Ça me plaît beaucoup. On peut aussi choisir du travail, loisir, activité, bénévole. Voilà, le droit commun, c'est bien là.
Donc voilà. C'est très complet ce qu'on y trouve dans l'application. Et alors, à vos côtés, il y a justement Audrey. Il y a des formations qui ont commencé.
Je vais juste revenir un petit peu sur ce qu'a dit Edouard, du coup. Donc, il faut savoir que l'utilisation du site, il l'a fait tout seul. Donc, c'est très important quand même à souligner. Le site lui a été présenté une première fois où j'ai pu lui expliquer justement quel était l'intérêt, quels étaient les avantages du site, qu'est-ce que ça lui permettait, lui montrer un petit peu comment interagir avec ce site. Et après, il s'est débrouillé tout seul. Donc, il est allé tout seul sur le site. Il a fait toutes les parties du site. Voilà, et du coup il m'a appelé à la fin en me disant voilà, c'est bon, j'ai fini le site, je suis super content, voilà. Donc ça c'était pour le premier point. Sinon, donc au niveau des formations, donc nous réalisons donc actuellement des formations auprès des professionnels et des parents qui le souhaitent, donc qui entourent les personnes avec déficience intellectuelle. Dans l'idée de pouvoir prendre en main ce site, de comprendre un peu l'intérêt de ce site, à quoi il sert, à quoi il mène, quel est l'enjeu de ce site. Et donc plus récemment, nous allons donc du coup l'ouvrir à des personnes directement concernées, donc les personnes avec déficience intellectuelle, avec trisomie 21.
Est-ce que c'est entre guillemets obligatoire de passer par une formation, ou est-ce que des publics extérieurs qui ne connaissent pas l'application peuvent tout à fait se rendre sur le site et s'en débrouiller ?
Alors, ce n'est pas obligatoire. Par contre, pour les personnes avec déficience intellectuelle, personnes avec trisomie 21, on recommande très fortement une prise en main accompagnée de l'outil.
Et il y a une chose aussi, c'est que cette application, tout comme sa tête pour tes dents, elle est en partie personnalisable. En tout cas, on peut y apporter des éléments personnels.
En effet, on a voulu favoriser tout ce qui était projection personnelle, surtout sur une partie du site qui concerne la projection dans l'avenir, donc qui permet de réfléchir à son passé, à son présent, pour essayer de mieux se projeter dans l'avenir. Et donc dans cette partie-là, on a essayé de favoriser donc l'utilisation d'images personnelles, c'est-à-dire que la personne peut utiliser des images de son passé, de son présent et de son avenir.
Alors là, on a un résultat de recherche, un outil en tout cas... Créer, qui est une application, mais tout au long de cette recherche que vous avez fait ensemble et de cette collaboration, il y a eu des avancées qui ont accompagné cette application. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire un mot, peut-être, des découvertes, des avancées qui ont été... ce que vous avez découvert au cours de cette recherche?
Alors, je ne sais pas si c'est des découvertes, mais en tout cas, ce qu'on a conforté, c'est l'idée que les méthodologies de conception des outils doivent être ce qu'on appelle centrés utilisateurs, c'est-à-dire que l'utilisateur et les utilisateurs au sens large, l'utilisateur, les familles, les professionnels, doivent être inclus dans le processus de conception dès le début. D'abord, pour définir les besoins, les attentes, et ensuite tout au cours du cycle de conception, pour valider, pas par pas, toutes les étapes intermédiaires et valider avec les futurs utilisateurs pour être sûr qu'on est dans la bonne voie, pour valider l'ensemble des éléments qu'on va inclure dans l'assistant, les images, pour être sûr que c'est les informations les plus pertinentes au regard du public visé. Enfin voilà, c'est une méthodologie qui est très longue en fait. C'est pour ça que l'outil a mis très longtemps à être développé, plus de 2 ans. Mais cette méthodologie très lourde nous a franchi du problème un peu classique où on développe des choses sans se demander totalement à qui la chose va servir. Et ensuite, passer beaucoup de temps à réajuster en fonction des publics qui vont l'utiliser. Donc voilà, ça a été évidemment une fondamentale pour nous, ce partenariat. D'ailleurs, c'est un partenariat d'équipes transdisciplinaires et partenariat avec l'association et partenariat avec les utilisateurs. Voilà, évidemment, le soutien extrêmement actif de la FIRA que l'on ne pourra jamais assez remercier de nous avoir permis de vivre cette aventure collective parce que bah, évidemment, c'est la vocation de la FIRA, mais accompagner un projet de sa conception jusqu'à l'utilisation, c'est quand même pour des chercheurs quelque chose d'extrêmement magique.
Voilà. Et puis d'autant plus que cette coopération s'est effectuée donc avec l'Université de Mons, Marie-Claire, en Belgique. Ça a eu un apport tout à fait spécifique dans la recherche parce que, Marie-Claire, vous m'expliquez, vous travaillez sur l'orthopédagogie clinique, qui est un métier qui est reconnu chez vous en Belgique, qui ne l'est pas en France. Et voilà, c'est cette coopération internationale, même si on n'est pas bien loin avec la Belgique, c'est un peu chez nous aussi, mais a permis...
C'est sympa
Non, c'est chez nous deux, on n'est pas. Mais ça a permis justement un apport supplémentaire et une richesse supplémentaire pour développer ce projet.
Je pense que c'est ça aussi qui était intéressant, c'est qu'au point de départ, toute la réflexion au niveau de l'autodétermination, c'est à la fois, je dirais, un résultat, mais aussi un processus. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est que pour arriver à ce résultat le plus possible, il y a tout un processus qui est travaillé, de réflexion, donc, et l'élaboration telle que, par exemple, les notions de choix, qu'est-ce que choisir, finalement, c'est quelque chose qui est très complexe. Alors, à la fois que ce soit un support, je dirais, de logiciels qui soient informatiques ou ce soit un support papier, l'essentiel c'est de se dire il y a la complexité des choses, par exemple faire un choix hein, et a fortiori un projet de vie, et à partir de là essayer d'amener la personne à s'approprier un maximum de facettes de ces éléments qui sont complexes. Donc on a eu l'habitude quand on travaillait dans le champ du handicap, c'est de se dire, eh bien, c'est difficile, c'est compliqué, donc on va réduire la difficulté, on va la simplifier, on va proposer quelque chose qui est à leur portée. Or ici, la dimension, quel que soit le support, on a été animé de la même chose, c'est-à-dire, il faut être ambitieux. Le projet de vie, c'est ambitieux. L'autodé, c'est ambitieux. Donc, à ce moment-là, il faut aller rechercher vraiment tous les moyens à notre disposition pour amener la complexité à la portée de l'individu. Et donc, c'est ça, essayer de voir quel est le langage, qu'il soit pictogramme, image, geste, peu importe, mais quel est le langage qui touche et qui permet à la personne de se déployer et de s'exprimer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a réunis, c'est cette finalité, au-delà du moyen. Mais le moyen est très important aussi.
L'outil numérique, on l'a vu, on va y revenir. Un mot, Jean-Paul ou quelqu'un d'autre, mais sur le fait que, justement, grâce à tout ce travail, c'est un outil qui ne va pas seulement être utile pour des personnes porteuses de trisomie 21, mais qui va pouvoir, alors peut-être avec des adaptations, mais ou presque pas, toucher un public, là encore, bien plus large.
On l'a pensé pour un outil accessible à tous, y compris aux personnes avec trisomie 21. C'est pas un outil pour les personnes trisomie 21 accessible à tous, c'est un outil pensé pour tous, accessible aux personnes avec trisomie 21.
Vous me disiez d'ailleurs que vous aviez eu un prix d'accessibilité.
La page nous a fait l'honneur de nous nommer trophée de l'accessibilité universelle, effectivement. Donc c'est effectivement on était très satisfaits. Moi je voudrais dire au nom de Trisomie 21 que j'ai été, enfin c'est moi qui m'y suis impliqué, mais j'ai été très très heureux de travailler avec les deux universités. J'ai pris beaucoup de plaisir à ce travail. Les échanges ont été extrêmement intéressants. C'est pas toujours évident de faire collaborer deux universitaires, donc deux universitaires issus de deux universités différentes. Je sais pas, on dit que les personnes trisomiques, les personnes avec trisomie dans le travail ont des vertus apaisantes. Alors je ne pense pas que ça soit ça, mais en tout cas on a pris beaucoup de travail dans les échanges entre les neuropsychologues et les orthopédagogues. Voilà.
Et pour élargir un petit peu cette discussion autour toujours de ce projet de recherche, on parle d'autodétermination ou d'autodé, comme Marie-Claire le disait. On parle de choisir sa vie, du pouvoir de dire, du pouvoir d'agir. Est-ce que c'est un peu une réalité? Est-ce qu'on est encore un peu dans le mythe? Est-ce qu'on est entre deux? Est-ce que cette application, c'est un début? Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on en parle beaucoup. Et puis, dans les faits, on n'a pas forcément l'impression que beaucoup de personnes handicapées ont aujourd'hui véritablement accès à l'autodétermination.
Je pense que, oui, on en parle beaucoup. C'est un chemin qui est à parcourir. C'est vraiment un processus donc il s'agit de mettre en place. Et ça dépend de nous. Les conditions qui vont faire que la personne va pouvoir oser prendre la parole, l'apprendre, avoir des occasions de pouvoir choisir dans les éléments qui sont peut-être du quotidien, mais aussi des projets qui sont ambitieux. Alors, est-ce que nous vivons dans un monde idéalisé où tout est... Non, mais je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est justement, c'est ce processus, c'est ce chemin qui est mis en place, et c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer nos expertises et de les mettre en commun dans ce cadre-là. C'est un moyen. Donc je pense que ce qui est vraiment important, et on l'a signalé dès le départ, c'est la finalité. Si notre finalité, c'est de faire en sorte que les personnes puissent prendre la parole, c'est l'aspect citoyen, c'est l'aspect participation, alors on va rechercher les différents moyens pour mettre en place, ce processus.
Ça doit être un préalable à toute recherche, ça devrait être un préalable de s'intéresser avant tout à l'avis des personnes, à leur choix.
Alors, si je parle de l'expérience de neuropsychologue, je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme à opérer. C'est-à-dire que pendant des années, on a passé notre temps à essayer d'évaluer les difficultés que peuvent avoir des personnes et ensuite à mettre en place des programmes pour compenser ces difficultés. Alors ces difficultés sont parfois cognitives, donc on réentraîne la mémoire, on réentraîne le langage, on réentraîne toutes ces choses-là. Et puis bien plus tard, on s'est demandé si... Alors on a regardé si ça améliorait ces choses-là, mais bien plus tard, on s'est demandé si les personnes allaient mieux, si on leur demandait dans leur vie, est-ce que tout va mieux? Et bien souvent, elles répondaient non. Pas forcément, et on peut améliorer la mémoire sans que les gens soient plus heureux dans leur vie. Et alors l'autodétermination, c'est une chose qui du coup est un changement total de paradigme, parce que on réentraîne plus des choses que les personnes ont des difficultés à faire, on leur demande avant ce qu'elles ont envie de faire. Et ensuite, on peut mettre en place des programmes pour les accompagner dans ce qu'elles ont envie de faire. Et c'est vraiment un changement total, sûrement, de nos pratiques. Et c'est à tel point un changement intéressant que améliorer l'autodétermination, et ça a été fait dans des travaux, a ce que cherche à faire le neuropsychologue depuis longtemps, une réelle implication sur la vie des gens, non, sur la vie, mais la vie très concrètement, ça peut être effectivement leur capacité à trouver un travail plus tard, leur qualité de vie, le bonheur ressenti, toutes ces choses-là, voilà. Donc ce que voudraient faire les neuropsychologues depuis longtemps, l'autodétermination peut le faire, voilà. Et je pense qu'il va falloir qu'on y pense beaucoup plus dans les études à venir.
Jean-Claude, peut-être un mot là-dessus. Est-ce que vous êtes confiant sur ce basculement dont nous parle Bernard Nkawa, qui est en train de peut-être s'effectuer, en tout cas on espère?
C'est un basculement qui est fondamental, qui est remarquable, qui est indispensable, qui a des, là encore une fois, qui a des résonances beaucoup plus larges, qui est l'application un domaine particulier, qui est le domaine du handicap, de quelque chose qui est une longue histoire dans la lutte pour les droits humains. Il ne faut pas oublier que la démocratie a eu beaucoup de mal à s'imposer parce qu'il y avait des gens qui pouvaient décider à la place des autres. Et l'idée que n'importe quel citoyen qui n'était pas spécialement compétent dans tel ou tel domaine pouvait choisir et exercer sa liberté est une conquête difficile encore aujourd'hui dans le monde et une longue histoire. Mais si on va dans le monde de la médecine, le pilier de l'éthique, un des piliers de l'éthique biomédicale moderne depuis 70 ans, depuis le code Nuremberg, c'est ce qu'on appelle le choix libre et informé. C'est la même chose. À l'époque, c'était le chercheur qui décidait à la place de la personne qui allait participer, sans parfois même l'informer. Il savait ce qui était bon pour la personne et la société. Et jusqu'à la loi du 4 mars 2002, est quand même relativement récente, l'idée que en ce qui concerne la santé, la médecine, c'est-à-dire lorsqu'on veut aider la personne, c'est pas qu'on lui demande de participer à un bien collectif, mais on veut aider la personne pour la soigner, la traiter, la guérir, eh bien, on ne peut pas faire son bien par devers elle. Et donc, le choix libre et informé, ça veut dire que la personne doit pouvoir, ce qui est important, ce que vous avez fait, comprendre les enjeux et exercer son choix. Et pour un professionnel de santé aujourd'hui, aider une personne, c'est pas lui dire ce qu'il pense qui serait bien pour elle, c'est lui permettre de décider elle-même. Donc vous voyez que cette application remarquable dans le domaine du handicap n'est qu'une transposition ou est une transposition de ce qui a toujours été difficile, ce qui a toujours été une lutte. C'est au fond cette tendance que on peut, si on veut vraiment le bien d'une personne, il faut décider à sa place. Et l'idée qu'on peut lui donner les moyens de décider elle-même est une idée extrêmement à la fois moderne et difficile à imposer. Elle a une valeur éthique profonde. Paul Ricoeur disait « On entre véritablement en éthique ». Et c'est une phrase qui m'a toujours étonné parce que entrer en éthique, c'est une chose. Entrer véritablement en éthique, c'est encore plus compliqué. Il disait, si je schématise sa phrase, qu'on entre véritablement en éthique quand on fait en sorte, quand on veut, que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit, disait-il. Donc en fait, l'éthique, c'est vouloir que l'autre soit libre. Et ce que vous appelez l'autodétermination, au fond, n'est qu'une déclinaison d'un terme très ancien qui est d'ailleurs au fronton de nos mairies, qui est la liberté. Comment aider ? La solidarité, c'est... c'est pas aider la personne en faisant ce qu'on croit bien pour elle, c'est l'aider à exercer librement son choix, son destin. Et je crois, et vous le disiez tout à l'heure, vous l'évoquiez, et on le voit d'ailleurs dans les sociétés totalitaires qui d'un seul coup retrouvent la liberté, ça ne va pas de soi, ça s'apprend. Et plus on l'exerce, et plus on le maîtrise. Et donc, il y a une appropriation de la liberté. Et donc, comme vous le disiez, permettre de choisir, mais de choisir pas au hasard en jetant des dés, en ayant intégré un certain nombre d'éléments, en les ayant compris et en exerçant un choix, non seulement ça permet de choisir, mais ça permet d'apprendre demain à choisir. Donc, il y a quelque chose de prospectif en plus dans ce que vous faites, qui est que c'est quelque chose dont on ne connaît pas la limite. C'est ce qu'on appelle... l'intelligence individuelle et collective, c'est-à-dire au fond c'est un processus. Et je crois que de la même façon que la justice est un processus et n'est pas la somme des décisions judiciaires mais le processus qui fait que les choses sont jugées, que la recherche est un processus qui va au-delà de la somme des découvertes qui sont faites, c'est eh bien choisir librement est un processus. Donc je crois qu'il y a, non seulement c'est indispensable, je le prends, si on veut ce qu'on veut, que des personnes avec handicap puissent aller à l'école, vivre chez elles, vivre près de leurs proches, trouver un emploi, partager au mieux la vie de la société, eh bien, ça n'a presque pas de sens si on ne leur permet pas d'apprendre à être libre. Puisque si vous êtes dans une atmosphère où on vous explique en permanence ce qu'il faut faire, je veux dire, vous ne pouvez pas vous construire et vous approprier votre cadre, votre vie. Donc je crois que c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, je crois que c'est un leitmotiv, mais parce que c'est un fil rouge de tout ce qui concerne la recherche sur le handicap. Non seulement c'est essentiel pour les personnes avec handicap, mais ça a des résonances et des enseignements, je dirais, pour nous tous. Et peut-être une autre chose qui m'a frappé, mais qui est là encore un fil rouge de la FIRA, c'est que dans les trois projets qu'on a vus, un point commun, c'est le respect. Le respect pour la souffrance des parents, dans le premier projet. Le respect pour la capacité d'apprentissage des enfants, dans le second. Et le respect et la confiance dans la capacité d'une personne à inventer son propre avenir. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'apprentissage de la liberté s'il n'y a pas au préalable le respect fondamental pour la personne. Et donc, je crois que votre projet est une illustration, encore une fois, de ce qui est profondément démocratique, de ce qui est profondément représentatif des droits de l'homme, et ce qui est d'ailleurs ce qui a été à l'origine de la création de la FIRA, ce qui est l'essence, presque plus que la loi de 2005 en France, de la convention de 2006 de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, c'est-à-dire au fond croiser la Déclaration universelle des droits de l'homme avec la convention sur le handicap.